Ah mais je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît?
J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. En vrai, ça va moyennement, étant donné que je suis malade, sa mère. Et j'enregistre vraiment ce podcast depuis mon lit. Genre, j'ai vraiment enlevé le micro de son trépied et je me suis foutue dans mon lit. Je suis d'ailleurs désolée du retard de cet épisode, car je suis en plein déménagement. La partie claque a rendu ses clés de l'appartement de Lyon et je suis en train de squatter chez mes parents avant de déménager. Donc au moment où tu écoutes ça, je serai à Paris. La partie claque sera officiellement à Paris et j'ai trouvé un appartement vraiment par pure chance via l'ami d'un de mes parents. Et l'appart est franchement incroyable. J'ai trop hâte de te montrer ça sur Instagram. Il y a un petit balcon. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais tout ça pour dire que la raison pour laquelle je déménage à Paris, c'est parce que j'effectue mon master à Paris. Je change de campus depuis Sup depuis Lyon pour basculer sur le campus de Paris pour poursuivre mon master en audiovisuel et trouver une alternance directement à Paris. De ce fait, j'ai trouvé un appartement beaucoup plus rapidement que possible. J'ai envisagé seulement d'arriver en septembre pour mon master, mais du coup, j'arrive avant et j'effectue mon stage de troisième année pour moi-même, pour la partie claque, ce qui est totalement fou. Mais du coup, dans cet épisode, je vais carrément expliquer comment j'en suis arrivée à pouvoir dire ces paroles. Parce qu'il y a un an, non, même avant, oui, non, il y a un an, quand même, en 2023, février 2023, j'ai fait un podcast qui s'appelle Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je t'invite à aller l'écouter parce que là, ça va vraiment être la suite. Ça va être un bon un an plus tard et peut-être que ça pourra te rassurer d'écouter l'un la suite de l'autre parce qu'il y a un an, j'étais totalement perdue. J'espérais faire ces études là mais j'ai réussi, du coup c'est vraiment trop cool de pouvoir m'écouter avant que j'ai réussi un an plus tard. Dans un premier temps, je vais vraiment faire un point sur mes études créatives, c'est-à-dire avant, comment, quelles études je faisais avant, parce qu'en effet c'était une réorientation, et je vais expliquer un peu mon parcours, quelles études j'ai effectuées avant, parce que c'était vraiment un changement 360. Et dans un second temps, je vais quand même faire un point sur la réorientation en règle générale. L'épisode va se faire sous forme de questions-réponses. J'ai mis ça dans ma story Insta et j'ai eu vraiment une max de questions, donc ça peut vraiment t'intéresser du coup d'avoir vraiment cet aspect de discussion autour d'un sujet où je pense que c'est vraiment hyper flou les études créatives. Il y a un an, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait et j'ai tellement appris que j'ai vraiment envie d'enlever un peu ce, peut-être pas un tabou, c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant, notamment au niveau du lycée, au niveau des orientations en règle générale. C'est un truc qu'on va plutôt décourager, enfin nos parents vont nous décourager nous à le faire, ou si t'as de la chance, tes parents t'ont encouragé. Bref, j'arrête de m'étaler. Je vais mettre directement en bio le timestamp pour que tu puisses aller directement au moment où je parle de la réorientation. Si jamais les études créatives, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, mais la réorientation en tant que telle, tu peux, du coup, je vais répondre à des questions un peu là-dessus sur comment j'ai fait. Et donc voilà, tu peux aller dans la description et regarder à quel moment tu dois sauter dans le podcast pour accéder à ces moments de questions. Sans plus tarder, je vais parler du coup de mes études créatives et de la réorientation. Du coup, j'ai divisé cette partie en trois parties. En premier temps, c'est avant. Qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision? Dans un second temps, je vais parler de Sup de Pub, donc l'école que j'ai effectuée. Et dans un troisième temps, après, qu'est-ce que j'envisage après du coup cette année d'études créatives et la suite, les métiers, etc. Comme j'ai pu dire dans l'épisode de Je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai après mon baccalauréat, donc j'ai fait un bac ES, à l'époque c'était les bacs comme ça. À l'époque, j'ai l'impression que j'ai 47 ans de dire ça, Amélia, ta gueule. Souci, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Les profs m'ont beaucoup orientée vers une prépa parce que j'avais pas du tout des mauvaises notes. J'étais très très académique, validation académique à fond. Enfin voilà, tu captes le délire. Et à ce moment-là, j'étais très intéressée par un peu la créativité. Je savais que j'avais ce truc en moi, mais il n'y avait pas un truc dans lequel j'excellais. C'est-à-dire que j'aimais bien coudre, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien faire des trucs. Mais il n'y avait pas un truc dans lequel vraiment je baignais à fond. Et du coup, les études créatives, c'est un truc que j'avais envisagé rapidement, mais mes parents ont vite un peu effacé, puisque en effet, j'avais pas plus d'intérêt que ça pour un domaine en particulier. Et eux-mêmes ne sont pas dans ces milieux-là, donc m'ont pas du tout encouragé à poursuivre cette voie-là. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le DUT GACO, c'est gestion administrative et commerciale des organisations. Même le nom, il est barbant, je te rassure que les études, c'est la même. Après, non, je suis un peu mauvaise. Pas mal de personnes de ma classe ont aimé. Moi, pour ma part, c'était pas ma tasse de thé. Et dès le premier semestre, j'ai su que c'était pas ce que je voulais faire. Je détestais mes cours, je détestais vraiment... mon cursus scolaire m'intéressait pas, mais je savais que ça me proposait une troisième année à l'étranger. Donc je me suis dit, Amélia, accroche-toi, j'ai fait partie du BDE dans lequel j'ai pu faire photographe. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des photos à l'argentique et j'ai même créé mon Instagram, du coup, Film by Mimo. et même mon TikTok, il me semble. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que j'aimais faire quelque chose d'autre. Et il se trouve que mon IUT, du coup de Lyon 3 dans lequel j'étais avant, était situé au bout de la rue de mon école actuelle, sup de pub. Et du coup, j'avais découvert ça parce que je connaissais certaines personnes qui étaient vite fait, et j'ai une grande sœur d'une amie aussi qui était. Et du coup, j'ai commencé à capter, j'ai appris qu'il y avait un métier qui s'appelait d'un directeur artistique, et j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais faire ça après mon DUT, mais que je voulais quand même valider mon DUT pour m'assurer un diplôme, parce que je me sentais pas prête à sauter le pas d'arrêter. Et d'autant plus, j'avais mes meilleures amies du coup de la porte qui claque, je vivais à la porte qui claque à ce moment-là, et je me voyais pas changer. Bref. Tout ça se passe, je pars en Erasmus, je déteste mon Erasmus, j'en ai fait tout un épisode de podcast, et c'est pendant cet Erasmus que je fais l'épisode de podcast, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et je sais pas, vraiment j'étais perdue au possible, mais j'avais déjà prévu qu'après ma troisième année, j'allais envisager un master en direction artistique dans cette école. Me rendant compte que j'allais pas valider une troisième année dans mon cursus actuel, il fallait que je trouve une école qui me prenne une troisième année en études créatives. Et c'est là que le problème s'est posé, parce que l'intégralité des écoles demandait un portfolio, beaucoup de compétences, etc. Et c'est là que je me suis dit « Oh merde !» Du coup, c'est à ce moment-là que je me suis un peu rabattue sur sup de pub. Il y avait aussi l'ESP, l'ESD, ISCOM. En fait, il existe une panoplie d'écoles du type que j'ai fait. Sauf que beaucoup proposaient du coup des cursus en alternance, pas en alternance. Et moi, je voulais ne pas faire en alternance, et je vais y venir après pourquoi ce choix-là. Donc, j'ai charbonné pour faire un portfolio que je n'aime plus du tout à l'heure actuelle, mais j'ai réussi à le retrouver. Donc, à ce moment-là, je le mettrai dans la bio également du podcast pour que tu puisses aller voir à quoi ressemblait ce portfolio. S'il te plaît, ne me juge pas plus que ça. Je vais mettre en lien mon deuxième portfolio qui n'est pas totalement jour encore, mais pour que tu puisses au moins peut-être voir l'évolution au cours de cette année. Mais voilà, c'est ce portfolio qui m'a permis de rentrer dans ces études-là. Il y avait une question, c'était est-ce que mes parents étaient compréhensifs face à ce choix ? En fait, dès que j'ai suscité l'intérêt de faire ces études-là, j'ai vraiment commencé à leur en parler. Donc le moment où j'ai commencé à m'inscrire, etc., c'était pas un truc qui sortait nulle part. Mes parents, c'est des gens qui sont très académiques, c'est-à-dire que les notes, c'était avant tout. Mais ils ont quand même, je pense, maintenant en grandissant, je comprends leur positionnement, mais du coup, ils m'ont quand même accepté que je fasse ces études-là, parce que du coup, ils ont vu la motivation que j'avais derrière et ils ont vu que j'ai monté une intégralité de portfolio en parallèle des cours pour rentrer dans cette école. Donc en vrai, j'ai eu de la chance qu'au bout d'un moment, mes parents aient accepté que je fasse ces études-là, parce que malgré tout, j'étais pas en capacité de payer l'école ou de subvenir à moi-même pour faire ces études-là. Donc mes parents, au début, n'étaient pas trop d'accord, ils comprenaient pas trop, notamment mon père. Il a fallu que je lui explique. Et je pense que c'est ça, notamment avec nos parents, c'est le fait d'expliquer concrètement qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire. Et j'ose espérer, je te souhaite d'avoir la chance des parents qui pourront t'écouter et même t'aiguiller ou t'accompagner dans ce processus. Du coup, je vais basculer sur le point de pourquoi j'ai choisi l'école sup de pub et pas une autre. Mais je ne voulais pas faire une troisième année en alternance. C'est-à-dire que l'école est payante, mon école elle coûte 8000 euros, c'est énorme. Et j'en suis totalement consciente, j'ai eu la chance, mais j'en suis éternellement reconnaissante que mes parents ont accepté de me financer cette année-là. J'ai quand même fait un prêt étudiant, mais que du coup mes parents remboursent intégralement, donc franchement je n'ai même pas à mettre en mots comment je suis reconnaissante qu'ils aient accepté de croire en moi, et etc. Mais du coup c'était une troisième année, parce que l'alternance certes ça te offre l'opportunité de ne pas financer du coup ton année, c'est l'entreprise qui prend en compte les frais scolaires, et d'autant plus que tu gagnes un salaire. Toutefois, ne venant pas d'études créatives, je savais que je voulais des bases, je ne voulais pas faire une alternance, j'avais peur de ne pas trouver une bonne alternance, je voulais vraiment faire une année de création pure et dure, et c'était un très bon choix, vraiment. Je sais que sur le terrain, on apprend beaucoup de choses, mais je sais que l'école m'a beaucoup apporté également, mais je suis également consciente que j'ai eu la chance de prendre cette option-là. Si jamais tu n'es pas en capacité de financer ou quoi, je sais que l'alternance est une très belle opportunité, n'hésite pas à prendre cette option-là, parce que je trouve que c'est assez génial de pouvoir avoir accès à ces écoles et passer par l'alternance également, tu gagnes en expérience pro, et selon ton alternance, tu vas peut-être apprendre beaucoup plus que moi sur le terrain. Du coup, le processus d'inscription à sup de pub, c'est vraiment passé par un portfolio, enfin le CV, je sais même pas si j'ai envoyé un CV, mais il me semble. En vrai, je le dis et je le répète, ce genre d'école, c'est vraiment, tu poses ton billet, ils te prennent. Enfin, je l'ai vu dans les cas d'admission qu'il y a eu dans mon école. Avec les nouveaux cette année, notre remarque, c'était en vrai, je pense qu'il faut resserrer les critères d'admission pour notamment notre filière, parce que ça a été assez dur, on n'a pas été assez aiguillé au début vis-à-vis du niveau qui nous attendait. Et du coup, c'était assez facile d'admission. J'ai dû passer quelques exercices et c'est vraiment passé tranquillement. Et je sais que ça a été le cas pour les autres personnes dans ma classe également. Donc, pas forcément de stress vis-à-vis de ça. Après, je parle vraiment en connaissance de cause. Du coup, pour la troisième année, je ne sais pas ce qu'il en est pour le master. Pour le master, je pense qu'il faut beaucoup plus de compétences. Mais encore une fois, je dis juste tente ta chance. Malheureusement, les concours sont également payants. Mais je sais qu'il y a des écoles qui ne le sont pas. Donc, c'est à ce moment-là, se renseigner sur quelles écoles te permettent d'accéder à moindre coût également. Mais du coup, en quoi consistent mes matières? Donc, l'intitulé de ma troisième année, c'était création visuelle et design graphique. Et franchement, c'était vraiment pluridisciplinaire. Tout ce que j'ai appris, ça va de la stratégie au cours de PAO. PAO, si tu ne sais pas, c'est tout ce qui est de la suite Adobe, du motion design allant vers du Photoshop, de la photographie, de la vidéographie. J'avais également des cours de stratégie, de brand content, tout ce qui concerne le contenu de marque. Voilà, en fait, c'était vraiment pluridisciplinaire. Tu pourrais regarder la maquette si tu vas sur le site de Subdepub, c'est vraiment pas une publicité. Mais du coup, on a quand même des cours théoriques pour apprendre les méthodes. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, en arrivant avec mon peu de bagages sur les logiciels de PAO et de la suite Adobe, j'étais perdue. En fait, les profs ne savent pas du coup que t'es nouveau, enfin, faut le préciser, mais du coup, attendent de toi que t'as un niveau de quelqu'un qui a suivi 2 ans de création auparavant, donc c'est assez compliqué de s'insérer à ce niveau-là. Et c'est vraiment quelque chose à pas négliger et je vais encore approfondir ça après. Mais du coup, moi, mes études, c'est sur 3 ans. Enfin, du coup, là, j'ai fait une troisième année, mais malheureusement, je ne valide pas de bachelor. C'est-à-dire que là, il me faut encore 2 ans d'études en master pour valider un cursus en 5 ans. Et ça, c'est trop nul. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres écoles, mais j'espère que ça l'est parce que du coup, bah, là, il faut que je fasse encore 2 ans pour valider un diplôme. Mes matières préférées pour moi, c'était tout ce qui était en fait design graphique, mais c'était grâce au prof. On a eu un prof qui était exceptionnel et c'est avec lui que j'ai pu créer. Tu peux regarder sur mon Instagram, j'ai un truc qui s'appelle Smala, c'est une publication et on a dû créer un MOOC, c'est un mélange entre un magazine et un book fait main en 3 mois avec des consignes. Enfin, c'était hyper. J'adore aller au physique avec les créations, faire des choses à la main. Mais j'avais quand même une boule au ventre avant d'aller dans les cours de PAO, de logiciel et tout, parce que je sentais des réelles lacunes vis-à-vis d'autres gens dans ma classe et je me sentais conne. Genre profondément, je me sentais conne. Et c'est vraiment ce que je voulais aborder maintenant, mais c'était vis-à-vis du jugement, vis-à-vis des autres personnes dans la classe. On est une classe de 18. Sur les 18, il me semble qu'on était 6 nouveaux. Et en arrivant du coup dans cette classe, je sais pas en fait, j'arrive pas trop à prendre du recul sur cette situation parce que j'en sors tout récemment, mais je ressentais énormément de comparaison. Même si dans le cas de la classe, il y avait pas, enfin, des personnes ne le ressentaient pas forcément, notamment les personnes qui étaient dans la classe avant. Et en fait, j'ai vraiment remis toute ma créativité en question parce qu'en fait, j'ai été évaluée sur quelque chose qui était hyper personnel. C'est-à-dire que quand je rendais un projet ou lorsque j'évoquais mes idées dans un projet de groupe, c'est pas j'étais en train d'évoquer mes idées pour le PowerPoint. Enfin, j'évoquais des idées qui me tenaient réellement à cœur et c'est dur de ne pas se faire écouter parce que bah. Je pense que mine de rien, et ça je sais même pas si je peux vraiment vouloir, mais les personnes qui étaient dans la classe avant, tu sais, t'as du mal à exprimer ta voix parce que bah, tu sais qu'ils sont là avant, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que vaut ta créativité vis-à-vis de celle des autres, même si il y avait quand même des personnes bienveillantes, etc. Je pense que la comparaison était beaucoup trop intense pour moi, et je me sentais vraiment pas à la hauteur. Et je sais que certains commentaires d'autres personnes dans la classe n'ont pas renforcé cette idée d'avoir plus confiance en moi. Mais encore une fois, c'est un truc... je sais pas si je peux en vouloir ou quoi que ce soit. En fait, c'est pas une question d'en vouloir, mais c'est juste plus de prévenir plus qu'autre chose. C'est que moi, venant d'études, du coup, de commerce, de choses comme ça, il n'y avait pas cette comparaison. Enfin, les idées, c'était des idées, c'était des stratégies, des projets de groupe, bah... C'était pas personnel, mais là, c'était vraiment particulier. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, je pensais que j'allais arriver dans une classe au monde des bisounours. Et encore, je pense que j'ai eu de la chance. Au niveau de ma classe, franchement, il y a quand même une bonne entente. Il n'y avait pas d'histoire. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Encore heureux, on est grand. Mais il y avait quand même ce truc sortant d'école publique en plus de commerce, de DUT, où je ne ressentais tellement pas ça. Et en plus, bah, du coup, j'étais un peu la seule créative au sein de mon groupe d'amis. Donc, arriver dans une classe de créatifs, ouah, ça met une claque. La confiance en soi, elle prend un coup. Et je veux pas que ça te décourage si jamais tu envisages ça, mais je préfère juste le dire parce que je ne veux pas que ça décourage. Au contraire, je pense que si on m'avait prévenu, je pense que je l'aurais beaucoup mieux vécu de savoir que j'étais pas seule dans cette situation, avant d'en parler aux autres gens de ma classe. Il y avait une question au niveau de la pression, au niveau de la créativité. Est-ce que j'ai peur de pas avoir d'idées? Est-ce que j'étais créative de base ou est-ce que c'est venu avec les études, la peur de pas trouver de l'inspiration du coup dans ces études? Et... oui, il y a forcément une forme de pression. Je pense que la créativité vient avec les études. Je pense que la créativité s'apprend parce qu'en fait, le point positif qu'il y a avec ces études, c'est que du coup, malgré le fait que je me suis retrouvée en comparaison vis-à-vis des autres personnes de ma classe, je me suis quand même retrouvée avec des personnes qui avaient beaucoup de centres d'intérêt que moi, enfin beaucoup de mêmes centres d'intérêt que moi, et du coup on s'est retrouvés à avoir des discussions que j'avais jamais eues avant. Je me suis sentie beaucoup inculte, parce que par exemple j'ai pas beaucoup de connaissances en cinéma, et du coup j'avais l'impression d'être débile. Quand je disais un truc, ils sont en mode « Ah mais tu connais pas ça ?» Je suis en mode « Non mon ref, je ne connais pas les 500 films de l'histoire française, tu vois. » Mais bref, tu vois, mais il y a quand même cet avantage, il y a des gens qui ont vraiment un réel intérêt. Si j'ai des questions, ne serait-ce que sur le mix média que j'ai produit, j'ai posé à des gens de ma classe, en fait il y a une réelle entraide, j'ai l'impression qu'il y a un Google au sein de la classe. Tu as une question, tu peux le poser, il y a des gens qui ont des spécialités, et c'est vraiment inspirant de voir les gens autour de soi entreprendre des choses et de savoir où ils vont et de parler de plein de choses. En fait, c'est des discussions que j'avais jamais eues auparavant et c'est trop intéressant, et ça pour rien au monde, j'aurais regretté cette année rien que pour ça. Mais la pression du coup de la créativité, c'est quand même, en fait ce que je disais avant, c'est que du coup tu vas comparer tes idées face aux celles des autres, mais en ayant ces discussions également, ta créativité elle va se cultiver, parce que du coup tu vas apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux briefs, et ça vient aussi. Donc je pense que j'aurais pas peur à ta place si tu ne ressens pas énormément de créativité, mais tu sens qu'il y a ce truc, franchement teste. Mais du coup, on m'a demandé donc 3 points positifs et 3 points négatifs. Point positif, c'est qu'il n'y a pas trop de pression. C'est-à-dire que vis-à-vis d'une étude d'art, donc j'ai pas trop parlé des autres études d'art, mais j'aimerais en faire un épisode de bonus. T'as par exemple les DNMate, les Gobelins, t'as plein d'autres écoles, les Beaux-Arts, enfin bref, je t'en passe. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de pression dans ces écoles, beaucoup sont publics. Et du coup, il y a beaucoup plus de pression face à tes études. Et là, j'ai pas ressenti de pression spécialement. Ça va, enfin, voilà, c'est pas la même quantité d'écoles d'art, quoi. Autre point positif pour moi et dans mon choix de prendre sub de pub, c'est que mon emploi du temps, bon, il y avait des périodes qui étaient intenses, mais il y avait des périodes qui étaient assez légères quand même, donc ça m'a beaucoup permis de faire des choses à côté, même si ça a été très dur niveau créativité d'entreprendre deux choses à côté et de prendre l'équilibre, mais c'est quelque chose qui s'apprend et ça m'a appris à faire avec concrètement. Mais par exemple les intervenants sont cool, ça change régulièrement, l'emploi du temps change, et enfin c'est pas un truc trop routinier, et moi ça me saoule la routine. Et bah du coup, troisième bon point, enfin c'est vraiment juste parce que c'est des études passion, pouvoir passer par des études que je n'aimais pas avant, je me réjouis de pouvoir aller en cours et d'avoir hâte d'apprendre quelque chose. Mais par contre les points négatifs, bah c'est que ça coûte cher sa mère, concrètement. Il n'y a pas trop de locaux à sub de pub, il n'y a pas des locaux de vidéos, contrairement aux Beaux-Arts, aux DNMade, les Gobelins, enfin il n'y a pas de locaux de créativité, c'est pas aménagé pour, je suis mélangée avec du coup l'INSEC, enfin des écoles comme ça, et du coup bon, en fait c'est pas aménagé pour la direction artistique pure et dure. Un autre point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies, si ça t'intéresse, parce que sub de pub, c'est dans le nom, ça apporte son nom, c'est de la publicité, donc ça m'a apporté énormément de culture publicitaire. C'était très intéressant, mais toutefois, j'ai pas envie de me diriger là-dedans, et c'est ce que je vais basculer dessus maintenant. Et l'autre point négatif, c'est la comparaison auquel je ne m'attendais tout simplement pas. Du coup, maintenant, après, j'ai mentionné du coup que Subdepub, c'est une école de publicité. Ils aiment bien mettre en avant que les étudiants vont en agence de publicité après. Je ne connaissais même pas les agences de publicité avant d'aller dans cette école. Vraiment, c'était un truc qui m'a... Je me sentais conne, quoi, clairement, quand je suis arrivée. Beaucoup de personnes de ma classe aspirent à être directeurs artistiques. On retrouve des directeurs artistiques, par exemple, dans des agences de publicité. C'est eux qui vont travailler main dans la main avec les stratégiques pour mettre en place une campagne publicitaire. Donc franchement, c'est un rôle très pluridisciplinaire dans lequel tu dois mettre en place une vision artistique. Par contre, c'est pas trop quelque chose que j'envisage directement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce que ça m'a appris, je pense que c'est le podcast qui m'a beaucoup appris ça, mais en parallèle de mes études, c'est que j'aimerais bien mettre en place des stratégies, enfin pas des stratégies, mais des creative concepts. Genre, le post s'appelle Creative Social. C'est par exemple mettre en place des formats créatifs pour les réseaux sociaux, pour des entreprises, pour des médias notamment. Enfin, c'est vraiment ça le post qui m'intéresse. Mais en fait, le post n'a pas forcément d'intitulé. Mais voilà, c'est plus dans l'audiovisuel, dans lequel j'aimerais vraiment maxer le graphisme. C'est pas forcément un truc que j'aime bien, mais sans plus, tu vois. Et les autres questions, vraiment, par rapport à après, c'est la peur de pas trouver un travail. Est-ce que c'est facile de trouver un travail ? Bah non, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des alternes. Le banon était horrible. Non, ce n'est pas facile de trouver un travail. C'est pas facile de trouver stage, alternance. J'ai vu la galère auprès de ma classe. Mais si tu prends ce choix-là, je t'encourage vivement à entreprendre des choses à côté. La créativité, du coup, en vrai, je suppose que tu fais déjà des créations de ton côté. Mais je pense que c'est hyper important de trouver ta patte, ce que tu kiffes. Comme ça, au moins, tu peux pouvoir un peu cibler un peu plus ce que tu veux faire. Après, en fait, je pense vraiment, et c'est là que je vais apporter peut-être un peu de légèreté, c'est que si tu veux vraiment faire quelque chose, c'est que certes on te dit que les métiers sont bouchés, que j'ai pas envie de t'encourager à être dans quelque chose qui est spécialement bouché, mais si t'as une déter et c'est une IA qui t'a envie de le faire et t'es motivé, pour moi il n'y a pas de raison. Pour moi, il n'y a vraiment pas de raison. Il y a des postes qui existent, il y a des postes à pourvoir. Il faut juste faire en sorte que ces postes sont pour toi. Là, je vais entamer ma recherche d'alternance. Si ça se trouve, je vais réécouter ce podcast, je vais vouloir mettre une claque. Mais vas-y, tu vois, t'as capté. C'est d'entreprendre plein de trucs à côté. Et c'est ce que je vois au sein des gens de ma classe, ceux qui ont réussi à trouver des choses. C'est vraiment les personnes qui ont entrepris, enfin, qui ont mis en avant des projets vraiment passion, avec une cohérence au sein de tout leur portfolio, tu vois. La dernière question vis-à-vis du après au sein des études créatives, c'est la peur d'exercer un métier passion. Tu vois, le fait de perdre sa passion, etc. Ouais et non. Je le vois là quand la partie claque est devenue en partie mon travail. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de perte de passion parce que s'entremêle du coup de la compta, des chiffres, etc. Mais d'un côté, je pense qu'il faut juste relativiser et se dire que tu as la chance de te réveiller le matin et d'exercer ça. Toutefois, je pense que c'est important de relativiser, de se dire « Ok, bah, ta créativité, ton design, c'est devenu ton métier. Essaye d'en faire quand même ta passion. Essaye de faire des choses à côté qui te font kiffer, qui sont vraiment amateurs. » Et la définition d'amateur, c'est quelqu'un qui aime faire, concrètement. Et professionnel, c'est quelqu'un qui, donc c'est sa profession, donc il gagne de l'argent. Et il y a Elliot Erwitt qui disait qu'il était photographe professionnel amateur, parce qu'en fait, il aimait ce qu'il faisait malgré le fait que ça soit sa profession. Et c'est ce à quoi j'aspire être, parce que je ne veux qu'en aucun cas mon métier devienne une corvée. Je vais passer au point sur la réorientation, parce qu'en effet, il y a un an, je n'étais pas du tout dans cette situation et j'aurais bien aimé avoir cette discussion avec moi-même. Donc il se trouve peut-être que tu envisages une réorientation, peut-être pas plus en études créatives, mais en règle générale. Mais voici les questions que vous m'avez posées. La première, c'est est-ce que j'avais peur de faire le mauvais choix ? En vrai, je serais tendance à dire non, parce que je détestais tellement mes études, mais vraiment, c'était, il fallait me voir en cours, je pense que tous mes potes peuvent en témoigner. À quel point, mais j'avais envie de me buter quand on parlait de mon DUT, en fait. Genre, vraiment, j'en avais mis rien à foutre. Et passant, du coup, de quelqu'un qui était vraiment full validation académique, en avoir rien à foutre de mes notes, c'est que ça en disait long sur mes études. Et en voyant, donc, des personnes qui me parlaient de leurs études créatives ou de le voir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui m'a dit, mais en fait, Amélia, tu as la possibilité de faire ça, pourquoi tu ne le fais pas ? Et en vrai, j'ai pas douté. Vraiment, j'ai pas douté. J'ai douté si j'allais être prise, et là, j'allais être deg, mais j'ai pas douté sur mon choix, concrètement. Et il y a une autre question, c'est est-ce que j'avais peur que ça ne soit pas à la hauteur ? Carrément, je pense que ça n'était pas à la hauteur de mes attentes, foncièrement. Je pense que j'étais en mode j'allais au monde des bisounours, j'allais faire un truc trop cool, tout mignon et tout, et que j'ai redouté beaucoup de choses qui m'attendaient. Mais c'est pas forcément... Enfin, en fait, je sais pas si avant j'avais peur que ça ne soit pas à la hauteur. Je pense que c'est après, une fois que ça n'a pas été à la hauteur, que j'ai pris une claque et je me suis dit « Oh putain, mais là, en fait, c'est vraiment... ça reste de l'école, quoi. C'est pas juste cours d'art plastique en sixième, tu vois. » Est-ce que j'ai pris ma réorientation comme un échec ? Alors là, c'est une trop bonne question parce qu'en fait, lorsque j'ai arrêté mon DUT, j'ai validé mon DUT, donc un bac plus 2, et je voulais faire ce qu'on appelle un DUT. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant que les BUT, mais du coup, c'est une troisième année à l'étranger qui me validait donc un presque bac plus 3. Et ça, je l'ai vu comme un échec parce que j'ai un échec, bref. Tu captes. Et ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais au bout du zeub. J'avais l'impression que j'étais la plus grosse merde sur Terre. J'avais vendu ça à tout le monde. J'avais raconté à tout le monde que j'allais faire cet Erasmus. C'est à ce moment-là que j'avais honte et j'ai vu ça comme une grosse échec. Mais je pense que je crois fort au destin et je pense que sans ça, j'aurais pas créé la partie claque. Je me serais pas réorientée. Donc ma réorientation en tant que telle, non, j'ai vu ça comme un rebond et je me suis raccrochée à quelque chose de positif et au contraire, je me suis sortie de cette merde dans laquelle je me suis mis en arrêtant mon Erasmus. Donc foncièrement, non, je ne vois pas ça comme un échec. Au contraire, je vois ça comme du courage et une belle preuve de confiance en soi. Vraiment de se dire, ok, on va le faire et je me fais confiance pour le faire. Est-ce que j'ai peur d'être en retard parce que mes potes, du coup, vont finir leurs études avant moi ? J'ai de la science que mes potes, c'est vraiment une bande de troubadours. C'est-à-dire que tout le monde a pris une année sabbatique après moi. Donc parmi la majorité de mes meilleurs potes, enfin même, sauf une meilleure pote, tout le monde a fait une année sabbatique. Tout le monde a repris autour de moi. Je pense que je connais que deux personnes qui vont finir leur master l'année prochaine. Et c'est normalement le cursus. Et en vrai, si tu regardes même autour de toi le nombre de personnes qui se sont réorientées, qui sont pas dans le parcours et qui vont pas du coup valider leur master ou leur bachelor en temps et en heure, c'est aberrant. Et je trouve ça incroyable. Et du coup, je me sens absolument pas en retard. Et en plus, dans ma classe, du coup, moi, j'étais avec du coup, des personnes qui sont 2003. Moi, je suis 2002. Je pense que dans la classe, il n'y avait que 50% de 2003 et le reste, et j'étais même pas la plus vieille, loin de là. Il y avait des personnes qui avaient vraiment, genre, je crois, 50 plus que moi. Donc si c'est une inquiétude vis-à-vis de ça, au contraire, profite et ose. Enfin, j'ai une copine qui a fait bac plus 3 en bio et qui est repartie en première année et qui kiffe. Enfin, franchement, ose. Tu regretteras vraiment pas plus tard. Et la dernière question, c'était est-ce que c'était dur de se refaire des amis et de recommencer ? Ça sera tout un autre épisode de podcast une fois que je serai installée à Paris. Mais est-ce que je me suis vraiment refait des amis ? J'ai envie de dire que oui, mais je me suis énormément renfermée parce que bah, en fait, j'arrivais pas à faire confiance, j'arrivais pas à m'ouvrir, j'avais l'impression que bah, j'étais jugée et j'ai l'impression que dès que les discussions tournaient autour de la créativité, j'osais pas être moi-même. Vraiment, j'osais pas être moi-même, j'avais l'impression que j'allais être jugée dans un sens, mais c'est un regret que j'ai eu cette année d'avoir pas assez engagée au sein de mes relations amicales et d'avoir été un peu omniprésente par peur de me faire juger. Mais en tout cas, de recommencer, j'ai recommencé plein d'autres fois, hormis ces études-là, et j'ai réussi à me faire des amis. Donc si ça c'est ta crainte, au contraire, voilà comme une chance de rencontrer des nouveaux horizons et des gens qui vont te ressembler. Et ça, c'est vraiment fou parce que j'ai quand même rencontré des petits poteaux dans ma classe qui sont trop cool. Et bah en fait, on a une passion commune. Genre, je pense à par exemple une fille dans ma classe où on parle beaucoup du coup de mix média, ou même une autre avec qui on parle d'illustration. Et c'est trop cool parce que t'as l'impact créatif et t'as du coup le point de vue créatif de personnes qui t'entourent. Et ça, c'est pas du tout un truc que j'avais avant. Si je demandais à mes copains avec qui j'étais en DUT de regarder ma vidéo, ils vont être en mode waouh, ouais, cool. Ils auront pas plus d'avis que ça sur la vidéo. Donc, franchement. Je dirais que faut foncer et c'est trop cool du coup si tu rencontres de nouvelles personnes avec des nouvelles horizons. Bref, il se fait tard maintenant, il est maintenant minuit et j'ai mon train. J'ai ma voiture qui part demain à 6h en route pour Paris. Du coup, j'ai trop hâte de suivre la suite du podcast là et de faire mon stage pour moi-même. Et de voir où est-ce que le podcast va aller à Paris quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trop hâte. En tout cas, moi et mon doudou panda de chez Ikea qui s'appelle Gabouche, vous font plein de bisous. Gabouche, fais un bisou. Voilà, on fait plein de bisous et on espère que bah, si tu es très regarde, envoie-moi un message et ce serait je suis vraiment trop intriguée de savoir ça et pourquoi pas inviter d'autres réorientés sur le podcast pour qu'on en discute un peu plus. En tout cas, je te fais plein de bisous et on se dit à la semaine pro. Ciao.